Africa.
Parlons entreprise sur Africa Radio, l'émission qui accompagne les entrepreneurs, présentée par Phil Le Montagnard avec le coach Demuller.
Bienvenue à tous, parlons entreprise, on va parler du Pass Africa, on va s'intéresser à cet organisme quand on est issu de la diaspora et qu'on entreprend entre la France et un pays africain, il y a des difficultés auxquelles d'autres ne sont pas confrontés. Il faut construire des solutions adaptées, un accompagnement sur mesure, c'est ça le Pass Africa. Le Pass Africa, c'est d'abord une solution business. L'objectif est d'accompagner des entrepreneurs entre la France et l'Afrique afin d'accélérer leur développement. Et nous avons donc le plaisir d'avoir sur le plateau deux entrepreneurs, Boubacar Diallo et Kamel Haddar. Bonjour coach.
Bonjour Phil.
Alors, très rapidement, ça a été Kinshasa ?
Oui, ça a été. Vraiment très bien. Ben, comme on parle, le sujet tombe à pic, c'est l'Afrique, la diaspora qui retourne en Afrique pour faire développer le business et faire des créations d'emplois, créations de richesses. Donc, il est important de mettre ça en avant. Et en étant coach, je conseille dans ce sens-là. Ben, moi aussi, je suis dans l'activité, donc c'est plus facile à partager cette expérience.
Alors nous allons présenter donc le profil de nos invités, hein, Boubacar Diallo, français d'origine guinéenne. Boubacar Diallo est diplômé d'un master de Sciences Po Bordeaux et a obtenu un MBA en Management d'Audencia Business School. Boubacar a été spécialiste du commerce international au sein de la Société Générale, puis d'HSBC, hein, riche de cette expérience, il a fondé Binou, une start-up opérant le domaine de la transition énergétique et digitale des entreprises africaines et des agro-business présentes au Togo, au Burkina Faso. Il est à ce titre membre du label Pass Africa. En tout cas, on va décortiquer son parcours. Nous avons également le plaisir d'avoir sur ce plateau Kamel Haddar. Kamel Haddar est diplômé en marketing et en sciences informatiques de l'ESCP Europe. Après une expérience dans le domaine des médias, il a fondé Temtem, je ne sais pas si je prononce bien, qui est donc une super application comprenant notamment un service de covoiturage, une plateforme d'e-commerce, un programme de services à domicile et une application d'e-santé. En tout cas, on va décortiquer tout cela avec nos invités. Mais d'abord, coach, qu'est-ce que c'est le CPA ?
CPA, c'est Conseil Présidentiel pour l'Afrique. Au fait, ça a été mis en place par le président Macron au mois d'août 2017. Mm-hmm. L'objectif, c'est vraiment favoriser la relation entre la France et l'Afrique, surtout avec la nouvelle génération, leur donner accès à des programmes d'accompagnement, avoir un accès plus facile au niveau des financements auprès de la BPI. Donc ils ont un accès direct. Donc c'est vraiment, c'est partenaire, c'est du gagnant-gagnant à la fois pour la France et pour l'Afrique. C'est ça l'objectif du président Macron et je trouve que c'est une très bonne idée et on voit que ça profite à la nouvelle génération des entrepreneurs issus de la diaspora et vous verrez que ça va faire vraiment des grandes choses pour l'Afrique et bien sûr un retour pour la France, n'oublions pas ça.
On va commencer par monsieur Boubacar Diallo. Dites-nous vos motivations, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir entrepreneur aujourd'hui ? Alors nous avons eu un souci de micro, vous allez reprendre parce qu'on ne vous a pas entendu. Ça y est, c'est bon, c'est parfait.
C'est bon, ça fonctionne.
C'est
bonjour,
parfait.
Bonjour tout le monde.
Allez-y. Ouais.
Donc oui, pour répondre à la question, qu'est-ce qui fait qu'on devient entrepreneur ? Je pense qu'il y a une question d'histoire familiale. Quand on vient d'une diaspora, qu'on a une famille qui est venue en France... Et qui s'est construit en fondant sa propre entreprise. Moi, mes parents, ils sont rentrés dans la restauration, ils ont créé leur propre restaurant africain au début en Espagne et ensuite en France. Ils sont entrepreneurs depuis toujours, donc c'est ça qu'on a comme exemple. Moi, c'est l'exemple que j'ai eu, donc
c'est
ça qui m'a donné envie, mes parents. Donc c'est ça qui m'a permis de me lancer là-dedans.
Kamel Haddar ?
Écoutez, moi c'était plutôt l'envie d'avoir un impact positif dans le pays d'abord d'origine de mes parents et maintenant sur plusieurs pays d'Afrique et même la France. Parce qu'il y a des marchés qui ne sont pas adressés, notamment au niveau de la diaspora. Et nous, on est en train de l'adresser.
D'accord. Et Monsieur Diallo, votre choix de cette proposition d'activité, qu'est-ce qui a généré ça ? C'est le fait qu'en Afrique, il y a des difficultés au niveau énergétique. Souvent, on parle de délestage. Ceux qui ont l'habitude d'aller en Afrique, ils savent que souvent, il y a des coupures d'électricité. Et voilà, donc je pense que peut-être que vous vous êtes inspiré de ça pour pouvoir proposer un service adapté, mais surtout, j'ai cru comprendre, c'était dirigé vers les professionnels.
Oui, exactement. Alors, moi, il y a deux facteurs qui m'ont fait aller vers ça. Moi, c'est mon expérience d'avant, quand j'étais dans la banque, parce que j'avais des clients français qui voulaient travailler avec l'Afrique et ils avaient beaucoup de mal à se lancer. Ils avaient envie, mais ils n'y arrivaient pas. Et après, ce que vous avez cité, on a tous quelqu'un au village.
D'accord.
Tous, dans la plupart des pays. Et les problèmes sont toujours les mêmes. Il n'y a pas de courant, il y a du délestage, très mauvaise qualité. Si vous voulez boire une boisson fraîche, vous pouvez rêver. Donc nous, ce qu'on s'est dit, ce que je me suis dit depuis le début, c'est que en fait, il y a de l'activité, il se passe vraiment des choses en zone rurale et périurbaine, pas que dans les grosses villes. Et dans ces endroits-là, il faut essayer d'apporter les services à valeur ajoutée complémentaires qui vont permettre que les zones vont pouvoir se développer correctement. Et le service complémentaire essentiel dans ces zones-là, c'est surtout l'énergie. Si vous apportez de l'énergie, vous changez radicalement la vie des gens. Mmh. Et pourquoi sur l'entreprise ? Parce que en fait, c'est bien d'apporter de l'énergie pour de l'éclairage ou pour regarder la télé, mais je trouve que c'est quand même vachement mieux d'apporter de l'énergie à une petite entreprise pour qu'elle puisse avoir un frigo, un congélateur, vendre de la boisson fraîche et que tout le monde puisse aussi profiter de ça. Je pense que l'entreprise, la petite entreprise en Afrique, permet de créer beaucoup de valeur ajoutée pour l'ensemble des populations locales.
D'accord. Donc dans ce cadre-là, vous faites plutôt des installations. C'est vous qui installez, vous proposez les produits. Quel est le mode de financement pour ces différentes entreprises ?
Alors nous, on a un modèle particulier dans lequel on va effectivement proposer à des entrepreneurs, des petits entrepreneurs ou des entreprises dans l'agroalimentaire, de louer des équipements. Soit des équipements solaires, soit des équipements efficients en énergie. Équipements efficients en énergie, c'est des congélos, frigos, etc. de différentes tailles. On n'est pas l'installateur, on va travailler ensuite avec des partenaires. On va travailler avec des grosses entreprises qui sont dans l'énergie, qui ont des équipements de qualité. Et on va travailler aussi avec des partenaires locaux qui sont souvent dans le secteur agroalimentaire ou des ONG qui vont pouvoir nous aider sur le terrain pour trouver les entrepreneurs qui ont des besoins et pour pouvoir installer avec des partenaires locaux les équipes.
Alors Kamel Haddar, on va se retourner vers vous. Vous avez fondé Temtem, une super application comprenant notamment un service de covoiturage, une plateforme d'e-commerce. Est-ce que vous pouvez nous faire la présentation générale de cette application ?
Alors c'est Temtem One. Donc, Temtem en arabe, ça veut dire...
Ah, sous mes yeux, j'ai Temtem.
Ça veut dire tout de suite maintenant. Donc pour afficher un peu la rapidité des services. Donc Temtem One, c'est une application Android et iOS qui permet non seulement la mobilité, donc covoiturage et VTC, ça c'est uniquement en Algérie, et aussi du e-commerce comme Amazon, donc livré en une heure ou en quelques jours parce que l'Algérie c'est grand. Et aussi on a des services à la personne, notamment des plombiers, serruriers à domicile, des médecins à domicile. Donc ça c'est tous les services qu'on offre en Algérie. Pourquoi une super app ? Parce que tous ces services-là sont sur une seule application. Et la fonctionnalité qui a vraiment changé la donne, c'est la fonctionnalité Diaspora, Temtem One Diaspora. Elle permet à tous les Algériens du monde entier d'acheter tout ce qu'il y a dans la plateforme pour leur famille en Algérie. Ça veut dire que je suis à Montréal ou je suis à Paris, je vais faire les courses pour ma mère qui est à Alger, et ben je fais les courses,
très bien.
Je paye, et puis nous on livre derrière directement, tout de suite. Ça c'est aujourd'hui disponible, ça marche très bien. Et là on va lancer le Mali dans les deux semaines qui arrivent, et ensuite Sénégal, Côte d'Ivoire, Maroc, Tunisie. Donc ça c'est ce qu'on fait avec la Super App. Et c'est une application pour tous les pays. D'accord. Donc en fait on change de pays dès qu'on arrive, où on est reconnu par l'application, et il change de pays et de service. Et là, ce qu'on fait maintenant, toujours avec la même application, on adresse directement la diaspora en France. Ça veut dire qu'on va livrer à domicile, partout en France, à partir de ce soir, des produits africains et maghrébins. C'est-à-dire, je veux du couscous, je veux des dattes, je veux de l'huile d'olive, Je veux des produits spécifiques.
Par rapport à la période du Ramadan ?
Non, pas que. C'est qu'en fait, on s'est aperçu qu'on a plein de clients dans le monde. Et on leur a dit, mais en fait, vous voudriez quoi ? Vous voudriez avoir quoi aussi à livrer pour chez vous, au-delà de votre famille en Algérie ? Et là, ils nous ont dit, bah, on aimerait bien avoir les produits de chez nous. La boisson de chez nous, les dattes de chez nous, l'huile d'olive de chez nous, etc.
Et bah, comment vous faites pour le stock ? Parce que là, admettons qu'on vous commande une tonne de dattes, est-ce que c'est vous qui emmagasinez ? Est-ce que vous
avez... On a un entrepôt à Paris.
D'accord.
Et on livre en une heure Paris, la première couronne.
D'accord.
Et en moins de 24 heures, toute la France. Et si vous commandez avant 16 heures, on vous livre demain avant 13 heures.
Et si moi je fais de la nourriture du Congo, est-ce que vous avez... Ou c'est pas encore faisable ?
Si, à partir de ce soir, vous verrez sur l'application.
Ah bon ?
Des produits spécifiques.
D'accord.
Après, peut-être qu'on n'a pas tout, mais c'est bien, on teste le marché.
Ok.
Et là où on n'est pas dispo, vous verrez le pays de la... Le pays, par exemple, si moi je suis malien et je veux livrer de la nourriture ou acheter une paire de Nike à ma famille au Mali, à Bamako, eh ben, aujourd'hui, c'est pas possible. Dans deux semaines, oui. Par contre, aujourd'hui, je peux déjà dire, oui, je veux que Temtem One ouvre Mali. Okay. Donc, vous verrez le drapeau du pays et vous pourrez dire, ouais, je veux que Temtem One ouvre en priorité, quoi, par exemple.
Okay.
Donc, si, par exemple, j'ai énormément de demandes au Sénégal, ben, je vais ouvrir, par exemple, avant la Côte d'Ivoire.
Okay.
Donc, ça permet de dire, vous y êtes pas encore, mais j'aimerais bien que vous ouvriez rapidement.
D'accord.
Alors, vous avez près de 450 000 personnes, hein, qui utilisent déjà l'application, qui existe depuis combien de temps ?
3 ans. En fait, on a commencé avec le VTC,
okay.
qui s'appelle Temtem, donc ça c'est comme Uber. Hein. Mm-hmm. Ça a super bien marché. Et ensuite, on a pivoté vers un modèle un peu asiatique. Il y a plusieurs applications comme WeChat, Grab ou Gojek qui existent et qui ont des millions et des millions d'utilisateurs. Et en fait, on s'est inspiré de ces plateformes-là pour lancer la super app africaine. Pourquoi ? Parce que dans chaque verticale, par exemple en Europe, vous avez plein de concurrents. Or, en Afrique aujourd'hui, sur chaque verticale, soit vous avez personne, soit vous en avez un ou deux. Et donc là, il y a de la place. Et au-delà de ça, la diaspora, c'est quelque chose... Nous, on fait le pont, en fait, entre le monde entier et l'Afrique, à travers le e-commerce et aussi à travers, bientôt, dans un mois et demi, à travers le crédit. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer du crédit Temtem One à votre famille en Afrique et elle pourra acheter ce qu'elle veut dans la plateforme. Donc clairement, là, c'est mieux que du transfert d'argent parce que vous savez qu'elle ne va pas acheter des choses que vous n'avez pas envie qu'elle achète. Et c'est immédiat.
Donc
et ça coûte vraiment pas cher.
Par exemple, on met le crédit alimentaire, la personne aura la seule possibilité d'acheter de la nourriture. Est-ce que vous avez réfléchi dans ce sens-là ? Ça serait une bonne chose. Si c'est pour l'alimentaire, il faut que ça reste dans l'alimentaire pour éviter que l'argent part sur l'achat de bijoux. Or, ce n'était pas prévu.
Ouais, alors, par exemple. Alors, pas que alimentaire, mais tout ce qui est dans la plateforme. Alors, on ne fait pas de bijoux sur la plateforme.
Okay.
Mais par exemple, on fait du Decathlon, du Nike, enfin toutes les grandes marques de vêtements, de l'électroménager. Il y a beaucoup de gens qui achètent de l'électroménager pour leur famille, une télé, une machine à laver, ou voilà.
Mais, pardon.
Mais sur l'alimentaire spécifique?
J'insiste bien sur ça parce que c'est souvent le problème qui peut arriver quand on reçoit le coup de fil du pays où on vous dit, bah, écoutez, un tel est malade, est-ce qu'il y a possibilité de nous envoyer l'argent? Peut-être que ça serait bien de proposer ce service-là. Quand on vous appelle pour de la maladie, il faut que la personne achète que des médicaments pour éviter une utilisation autre de l'argent que vous allez envoyer. Parce que c'est vraiment le souci qu'on a souvent, il n'y a pas toujours la traçabilité, la vérité qui est dite par nos familles parce que bon, ils ont d'autres besoins, ils vous sortent des fausses raisons.
Mais c'est on peut forcer l'utilisation sur une partie de la catégorie.
Éventuellement, ça serait pas une mauvaise chose.
De toute façon, c'est celui qui enverra,
oui.
Qui pourra choisir.
Exactement, voilà.
Donc c'est très bien. Oui. Et ce qu'on a fait aussi de super intéressant, c'est qu'en France, il y a 1500 points de vente ethniques sur lesquels, bah, par exemple, moi, qui ne sont pas bancarisés, donc il y a des gens qui ne sont pas bancarisés en France, moi, je vais dans un point de vente, les Baras ou Western Union, j'y vais, je donne de l'argent en cash, par exemple 100 €, et le point de vente va me recharger mon compte Temtem One d'équivalent 100 €.
Okay.
Et après, moi, je peux le garder pour acheter à ma famille ou envoyer le crédit à ma famille.
Ok.
Africa. Parlons entreprise sur Africa Radio.
Nous avons donc le plaisir de recevoir Boubacar Diallo et Kamel Haddar qui sont donc nos invités. Des solutions adaptées, un accompagnement sur mesure, c'est ça le Pass Africa, accompagner des entrepreneurs entre la France et l'Afrique afin d'accélérer leur développement. Alors lorsqu'on vous écoute, pourquoi avez-vous encore besoin de Pass Africa ? Je vais commencer par Boubacar Diallo. Est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt majeur, particulier, pour vous accompagner encore aujourd'hui ? Il vous écoute, hein, Passe Africa.
Donnez-nous, en fait, l'apport réel de Passe Africa. Est-ce qu'il y a vraiment...
Un intérêt.
Donnez-nous les différents éléments que vous avez pu bénéficier. Parce que souvent, les gens, je pense qu'ils vont tous se dire, oui, c'est le financement, vous avez l'accès au financement. Est-ce que le financement fait tout? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a d'autres éléments qui vous permettent de plus facilement de vous déployer au niveau de l'Afrique.
On aura le point de vue des deux, hein, la question. Sûr. Alors, Boubacar Diallo.
Alors, déjà, sur le Passe Africa, la première chose, c'est que ça a démarré à la fin de l'année dernière par un tour de France organisé par le CPA qui a fait le tour des plus grandes villes pour essayer de comprendre quels étaient les besoins des entreprises. Donc ça pour dire que le Passe Africa est récent. Donc il ne faut pas lui donner non plus un rôle comme si c'était quelque chose qui existait déjà depuis plusieurs années. Ça, c'est en train de se construire. Ensuite, le Passe Africa, pour moi, c'est trois choses. C'est de la visibilité. Je pense que le pari est gagné puisqu'on est là.
Tout à fait.
On est là, on est en train de parler d'entreprise. On n'est pas en train de parler d'autres sujets qui ne vont pas concerner vraiment nos boîtes. Vous avez commencé par nous demander qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Je pense qu'on est dedans sur la visibilité. Il y a le réseau. On est 20 entreprises Passe Africa. On ne collabore pas encore, on n'échange pas encore, mais parce que les conditions sanitaires font qu'on ne peut pas vraiment se rencontrer, mais on est déjà en groupe WhatsApp, on essaie de s'entraider, donc il y a un rôle, une volonté de créer de la communauté. Et troisièmement, il y a cette question du financement. Donc je suis d'accord avec ce que vous dites, pour moi, quand on fait une start-up, le financement ne fait pas tout. Le financement, c'est un levier, c'est un vecteur, ça aide, mais le financement... il ne faut pas se focaliser exclusivement sur ça, même si, au quotidien, c'est quand même un de nos gros problèmes et le nerf de la guerre. Donc le Passe Africa, qu'est-ce qu'il fait là-dessus? Le Passe Africa est associé à la BPI, la Banque Publique d'Investissement. Donc avec cette association, ça nous permet, nous, d'avoir encore de la visibilité et d'avoir finalement une espèce d'accélération sur l'accès aux différents produits qui existent au niveau de la BPI. Il n'y a pas dans la BPI un produit Passe Africa, parce que les diasporas, on est tous différents, on a des sujets différents, mais on est tous, ce qui fait qu'on se ressemble, c'est qu'on est tous entrepreneurs, on a tous des problèmes parce qu'on travaille dans deux territoires, parce qu'on a peu de visibilité par rapport à d'autres acteurs en France, et on n'a pas non plus de visibilité dans le pays, parce que dans le pays, les diasporas, c'est pas non plus écouté tous les jours, quoi. Donc le fait d'avoir cet accès au travers de la BPI, ça permet aussi de pouvoir aller un petit peu plus vite sur certains dossiers de financement. Donc moi j'en ai un par exemple parce que je suis au Togo, mais je bosse au Burkina Faso, je bosse au Ghana, je bosse au Sénégal. Et pour moi tout ça c'est quand même des marchés de prospection. Et là je bosse avec la BPI pour avoir accès à un produit qui est très bien chez eux, qui s'appelle l'assurance prospection, qui permet d'avoir une assurance avec quand même du cash qui est mis sur la table pour qu'on puisse entamer des démarches de prospection. D'accord. Et ça, je pense que c'est important de le dire parce que c'est souvent des dispositifs que la BPI va proposer à des exportateurs français, des boîtes industrielles, alors que nous, dans les boîtes diaspora, on est quand même... quand on est diaspora, on a tendance à se dire, en fait, le pays, on le connaît.
Oui.
Donc qu'on a, alors voilà, que le nous, pays se transforme.
Oui. Voilà, et qu'on n'a pas besoin, nous,
d'accompagnement.
Mais si, on a besoin d'accompagnement, parce que c'est comme le mec en France qui vient de Bretagne et qui veut attaquer le marché niçois, il ne connaît pas, en fait. Donc nous, on est dans la même situation, mais dans des environnements et dans des géographies qui sont beaucoup plus étendues. Donc voilà, je pense que le Passe Africa, moi, ce que je retiens pour l'instant, c'est cette volonté vraiment de donner de la visibilité. Et qu'on soit pas une minorité invisible.
Ok, l'accompagnement se passe de quelle manière? Comment c'est organisé? Est-ce que vous avez un tuteur? Est-ce que vous avez
Moi, si je prends mon cas particulier, parce qu'après, je pense que ce qui est important aussi là-dedans, c'est que je pense que chacun a sa problématique et sa façon de la gérer. Moi, dans mon cas particulier, j'ai un relais spécifique au niveau de la BPI. Qui s'occupe de tous les sujets internationaux et qui me sert de relais. Donc moi, je lui dis quelles sont mes problématiques et après, elle va aiguillonner en fonction des besoins pour avoir accès au relais de financement. Moi, c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Après, je sais qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour de l'accompagnement juridique aussi.
Très bien.
Parce que sur le juridique, c'est très compliqué aussi. Moi, j'ai une société ici, j'ai une société au Togo. Je dois faire la compta des deux sociétés. J'ai des vraies problématiques de remontée de capital. Je fais du chiffre d'affaires là-bas, je peux pas le... Voilà, beaucoup de choses assez complexes, ouais. Qui fait qu'on ressemble plutôt à des toutes petites multinationales plutôt qu'à la petite entreprise exportatrice. Quoi. Donc il y a cet accompagnement juridique avec un cabinet d'avocats. Et quand on a un cabinet d'avocats, ben après c'est du temps. Hein. C'est du temps, leur parler, échanger avec eux. D'accord. Donc c'est accélération, visibilité et je dirais aussi essayer de nous donner du temps et de nous écouter. Parce qu'on est très peu écouté. Enfin, sinon, moi j'ai remarqué par le passé qu'on était peu écouté. Aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'il y a une certaine écoute et une certaine volonté d'accompagner. Alors, les choses se construisent. Hein, donc,
ouais. Alors, sur la même question, hein, Kamel Haddar, on aimerait également avoir votre
avis.
Votre avis, votre point de vue.
Bah, écoutez, je suis d'accord avec
sur l'accompagnement ce que dit, de Pass Africa, bien évidemment.
Je suis d'accord avec ce que dit mon collègue sur les trois points. Et particulièrement, moi, ce qui m'intéresse et ce qu'on est en train de développer, c'est vraiment la partie levée de fonds avec des investisseurs et aussi la partie mise en relation avec des acteurs locaux. Temtem One a besoin de commerçants partout en Afrique pour que ça marche. Et donc, que ce soit des petits commerçants ou des grands commerçants. Et donc là, on est en train de travailler justement pour mettre en relation avec tout ce réseau. Donc c'est très, très important parce qu'on gagne du temps et du temps, bah, pour un entrepreneur, c'est de l'argent.
C'est de l'argent, c'est clair.
Alors, parlons également de votre association. Vous avez créé l'Association algérienne des talents et des leaders depuis 2010 afin de créer une nouvelle génération de leaders en Algérie.
Oui, Atlas est né d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a très peu de personnes d'origine algérienne qui sont dans les parcours d'excellence, slash les grandes écoles. Et c'est très important pour nous parce qu'une diaspora a besoin.
Vous voulez susciter un intérêt justement à cette jeune génération?
Bien sûr, parce qu'il faut absolument leur dire que c'est possible de faire des grandes écoles, c'est possible de réussir. L'ascenseur social en France existe. Est-ce que c'est tout le temps facile? Non. Mais est-ce que c'est possible de se battre? Oui. Et il y a des outils et il y a aussi des gens qui ont réussi avant vous. Donc nous on fait du coaching. On fait beaucoup de réseaux, on a un réseau de plus de 2000 personnes dans le monde entier et c'est des gens qui ont à chaque fois réussi des choses exceptionnelles, que ce soit des entrepreneurs ou des gens qui sont salariés mais qui ont fait des grandes écoles ou des parcours d'excellence. Et ça, dans tous les pays d'Afrique, je pense que c'est très important de montrer les rôles modèles et de dire que oui, c'est possible d'aller à HEC, à l'ESSEC, à Polytechnique et à partir de là, on devient une puissance financière, intellectuelle, médiatique. Et c'est comme ça que l'Afrique et la diaspora existent, s'il n'y a aucune autre façon de le faire.
Comment vous donnez la visibilité à votre association? Parce que voilà, il faut que les gens sachent que ça existe, parce qu'il faut que ça puisse atteindre le maximum de jeunes, parce que souvent, comme vous avez pu le dire, on communique souvent le mauvais. C'est le mauvais qui est vraiment visible. Or, il y a vraiment des gens de talent, des leaders, mais on a toujours l'impression que c'est un peu caché, c'est sous la table. Il faut vraiment travailler. Bon, heureusement que là, il y a l'émission qui est là, vous en parlez. Mais il faut aussi qu'on trouve les moyens, ces canaux de communication pour pouvoir valoriser. C'est très important parce que, la jeunesse a besoin d'entendre, a besoin de voir les leaders, les gens qui ont fait des études. C'est vrai, souvent, on s'imagine que il y a pas d'opportunité, on peut pas sortir quelqu'un de haut gradé, haut placé, des vrais chefs d'entreprise. Or, il y a vraiment des hommes et des femmes de grande qualité, mais pour cela, il faut donner de la visibilité. Je pense que c'est un élément essentiel et c'est sur ça qu'il faut réfléchir. Par exemple, vous avez votre plateforme. Peut-être à un moment donné, intégrer cette communication-là à l'intérieur de cette plateforme-là, parce que vu que là, on a 450 000 personnes, demain, je vous le souhaite, il y aura 10 millions, 100 millions de personnes. Mais il faudra intégrer cette notion de communication sur cette possibilité-là des jeunes à pouvoir s'identifier à vous, à d'autres personnes. Donc, c'est très important.
Non, vous avez complètement raison. On l'a fait par étapes, parce que s'il ne faut pas décevoir les gens, que si vous avez demain 10 000 demandes d'adhésion, il va falloir les traiter. On rentre dans l'association par, euh, par un processus de sélection. Donc il faut, voilà, c'est un peu de travail. Et donc au fur et à mesure, on s'est fait connaître par le bouche à oreille. On a fait quand même beaucoup d'événements. Et surtout, quand vous tapez Algérie, élite ou leader ou grandes écoles sur Google, vous nous trouvez. Donc après, effectivement, c'est bien aussi d'en parler ici et il faut le faire de plus en plus. Mais encore une fois, par étapes, pour pas décevoir. Donc okay, c'est aussi ça l'excellence, c'est de maîtriser sa communication pour ensuite bien gérer les adhésions, mais pas que aussi le fonctionnement de l'association.
Moi, j'avais une question pour tous les deux. Le financement, comment ça se passe? Parce qu'on sait que c'est le nerf de la guerre, c'est difficile. Vous pouvez avoir une idée géniale, mais derrière, surtout qu'on sait souvent ici en France, les gens sont un peu frileux, même les multimillionnaires, même les milliardaires. Quand il s'agit de prendre le risque avec leur argent, ils sont vraiment réticents, ce qui pousse les startups d'aller chercher les financements ailleurs. Et il faut aussi qu'on le répète pour que les gens qui ont eu l'opportunité d'avoir beaucoup de cash, de pouvoir investir sur cette nouvelle génération en France qui a envie de lancer des choses top, mais il faut de l'argent. Je pense qu'on ne peut rien faire sans ces financements-là.
En résumé, est-ce que vous serez prêt à accepter un financement autre?
Est-ce que vous souhaitez le financement? Est-ce que déjà la France vous suit? Est-ce qu'il y a des investisseurs français qui sont derrière vous? Ou malheureusement, il n'y en a pas. Vous avez dû vous diriger vers l'étranger. Et souvent, quand on se dirige vers l'étranger, on vous prend, on vous ramène. On vous dit, écoutez, quittez la France, venez aux États-Unis. Vous allez travailler avec nous. Et voilà, c'est un peu cette difficulté-là qu'on peut rencontrer. Est-ce que vous, c'est le cas? Ou le fait d'être accompagné par le Pass Africa, vous n'avez pas besoin de ça. Pass Africa vous met vraiment par rapport à la BPI dans une position très avantageuse et ça vous permet de vous lancer facilement.
Boubacar Diallo.
Déjà, le premier financement que j'ai obtenu au démarrage, c'est moi-même.
D'accord.
Donc c'est mes économies. Donc c'est la prise de risque de l'entrepreneur et je pense que la plupart est dans ce cas-là. Financement, ça peut être parce qu'on a de l'épargne et des économies, et ça peut être aussi ne pas se payer pendant très longtemps.
Exact.
Donc ça arrive très souvent. Après, je trouve que quand on démarre, en France, il y a quand même des dispositifs qui existent pour pouvoir trouver les premiers financements. Lorsqu'on est sur une entreprise qui veut soit faire de l'innovation, soit exporter des choses à l'étranger, on peut trouver certains dispositifs. Le problème, c'est qu'il faut chercher beaucoup pour les trouver. Voilà. Et c'est là qu'on perd beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Moi, peut-être, j'ai eu la chance d'être un peu dans la banque, dans le secteur financier avant, donc ça m'a peut-être facilité un peu les choses pour y accéder. Mais ça, c'est vraiment mon cas à moi. Et ensuite, quand on veut aller un petit peu plus vite, c'est là que ça a commencé à se compliquer un petit peu. Quand j'ai commencé à chercher des investisseurs, c'était plus compliqué parce que vous êtes en France, c'est sympa ce que vous faites, mais votre marché, il est en Afrique et l'Afrique, on ne connaît pas grand-chose. Donc, quand j'ai pu avoir un financement...
On n'a pas les chiffres ni les données en général, c'est ce qu'on
veut dire. C'est ça, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de données, on ne connaît pas le marché. Mais oui, mais bon... Quand il y a du potentiel, il faut aller voir ce qui se passe.
Et créer les chiffres.
Voilà. Oui. Et faire confiance à l'entrepreneur qui vous dit, mais moi j'y étais, j'ai vu et je vois que voilà, c'est pas des gens qui sont juste en souffrance. Hein. Il y a de l'argent, il se passe des choses et il faut y aller parce que c'est des vrais marchés. Et donc pour pouvoir ensuite vraiment financer, j'ai fait une campagne de financement participatif sur une plateforme de crowdfunding où là j'ai pu obtenir 200 000 euros.
Okay.
Donc on a cru dans ce qu'on faisait.
Dans ce projet.
Ça a permis d'amorcer d'autres financements complémentaires, soit des subventions, différents types de soutien. L'entreprise elle est basée à Bordeaux et on est soutenu par la région Aquitaine. Donc la région a aussi des financements qui peuvent accompagner les entreprises lorsqu'elles ont des projets à l'international. Donc il y a des financements, mais moi je trouve que le problème aujourd'hui, c'est que les entrepreneurs, on passe beaucoup trop de temps à s'occuper de financement au lieu de nous occuper de nos clients. Moi, j'aimerais bien passer 100% de mon temps à m'occuper de mes clients, à trouver du chiffre d'affaires. Parce que le chiffre d'affaires, c'est du financement, c'est le premier financement, il ne faut pas l'oublier. Le premier financement d'une entreprise, c'est son chiffre d'affaires. Et je passe pas assez de temps à ça. Je passe trop de temps à parler au fond machin, à l'investisseur machin truc, qui ont beaucoup de temps parce qu'ils sont quand même payés tous
pour
à la
ça.
Fin du mois,
hein, oui,
hein, il faut le dire, hein, et sans langue de bois. Et moi, par contre, moi, je galère tous les jours et je dois aller parler à des gens, pitcher des trucs, leur présenter ce que je fais tous les jours, le répéter 20 fois pour pas forcément avoir un bon retour derrière. Donc nous, là, moi, je suis dans une nouvelle phase là, d'accélération de l'activité. J'ai des clients, j'ai tout qui est en place. Mais là, j'ai des besoins de financement qui approchent du million d'euros, en fait.
D'accord.
Donc là, c'est des fonds d'investissement de différents types. Et là, il faut un soutien, il faut des gens qui puissent appuyer comme le CPA ou la BPI, mais pour dire, voilà, il faut faire confiance à ces entreprises. Arrêtez de vous poser trop de questions. De toute façon, il faut être honnête, quand on fait une start-up, quand on crée quelque chose de nouveau, c'est 50% de chances que ça marche et 50% que ça plante. Hein. Mais il faut juste l'assumer et juste à un moment donné aussi donner la chance aux gens de se planter, mais aussi de réussir. Mais si on change un peu le chip dans la tête, il faut tous qu'on se dise non, s'il y a de l'investissement, s'il y a de l'argent qui est mis dans des entreprises, c'est parce qu'elles vont réussir. Donc on arrête de se dire on met de l'argent parce que ça risque de ne pas marcher.
Voir le côté positif.
Alors moi j'ai une question pour Kamel Haddar. Pensez-vous que le regard sur l'entrepreneur africain a changé en France, hein, lorsqu'on imagine Pass Africa qui accompagne aujourd'hui votre génération d'entrepreneurs. Est-ce que le regard sur l'entrepreneur a changé ?
Je pense qu'au niveau des politiques, il y a une prise de conscience, notamment la création du CPA et du Pass Africa, etc. Et je pense qu'on est encore très très loin de ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour rivaliser, que serait-ce un tout petit peu avec les Chinois ou avec les Américains. Allez en Afrique, vous allez voir c'est quoi la puissance américaine et chinoise. On est à des années-lumière. Donc, en termes d'investissement, en termes de tout. Regardez l'Afrique anglophone et regardez l'Afrique francophone.
Oui.
Ça n'a rien à voir.
Et c'est ça qui...
Aujourd'hui, nous, on essaie de... Nous, pareil, on est en levée de fonds, on cherche des investisseurs privés.
D'accord.
En France. Mais ils ne connaissent pas l'Afrique. Et quand on est en Afrique, ils nous disent « Non, l'Afrique, on ne connaît pas. » Quand on est en France, ils disent « Oui, mais non. » Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller voir l'Asie, on va aller voir le Moyen-Orient, on va aller voir les Américains, même les Anglais. Et donc, à la fin de l'histoire, nous, c'est du business, on est très pragmatique. On va aller là où les gens nous font confiance. Alors, je dis pas qu'il n'y en a pas en France, hein, mais c'est beaucoup plus frileux.
Oui, y en a
et je pense que les premiers investisseurs de l'Afrique, pour moi, ça doit être la diaspora. Chacun a 20, 30, 50 000 euros à investir à différentes étapes de sa vie. Et je pense que c'est cette épargne-là qu'il faut viser. C'est d'abord les gens de chez nous, parce qu'ils connaissent l'Afrique. Et aussi, même s'ils ne connaissent pas l'Afrique, ils veulent aider les entrepreneurs qui sont en train de faire l'Afrique de demain. Et donc je pense que c'est à eux que moi je m'adresse aujourd'hui, de dire, vous avez la possibilité d'investir chez nous. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, ou vous ne pouvez pas, pour des raisons personnelles, investir en Afrique, se déplacer en Afrique, créer en Afrique, vous pouvez de manière indirecte impacter l'Afrique positivement en investissant dans des startups et dans des entreprises issues de la diaspora.
Je pense qu'il faut développer aussi cette mentalité-là d'investir dans les startups. C'est pas non plus la mentalité, la chose qui s'impose chez la diaspora. C'est vraiment quelque chose, ils se disent, j'ai mes 30 000, vaut mieux que ça dort là, avec un 1,25 de rémunération, on veut pas prendre le risque. Et souvent même, c'est même la diaspora, des fois, qui a pas confiance à ce qui se passe dans leur pays d'origine. Un Chinois, on va le retrouver. Moi, je reviens du Congo, j'étais étonné, je suis parti en province, quincaillerie, j'arrive, c'est un Chinois qui tient ça. Je dis, mais c'est pas possible. À l'intérieur des terres comme ça, où nous, on aurait la crainte de dire, je vais pas travailler au village, c'est pas bon, nos parents n'aiment pas trop qu'on aille au village. Or, les Chinois, ils font 15 000 km, ils vont au fond du village pour faire l'argent. Donc, on a besoin aussi de susciter cet engouement de la diaspora, ceux qui ne sont pas nés entrepreneurs, mais savoir quand même investir et croire aussi à leurs frères et sœurs qui se lancent, qui prennent de risques. Il faut absolument réveiller cette envie-là.
C'est aussi notre responsabilité, à nous deux notamment, c'est de réussir.
Tout à fait.
Si nous on réussit, ça va inspirer d'autres et ça va donner confiance à certains. Mais clairement, les taux de croissance en Afrique, c'est pas les taux de croissance européens.
Hein. Non.
Ça n'a rien à voir. Faut pas se tromper, l'argent il est en Afrique. Dans tous les secteurs, il n'y a pas un secteur qui est épargné.
Redites-le.
L'avenir il est en Afrique.
Ouais.
Oui, c'est...
Non, mais pour ceux qui ont des doutes,
oui, c'est...
et ceux qui se victimisent en France, prends un billet d'avion et va de l'autre côté, tu vas voir comment ça va se passer.
Oui.
Ta vie va changer.
Moi, je le répète, c'est-à-dire que les usines sont en Chine. La Chine, au départ, le pouvoir d'achat d'un Chinois, c'était 200-250 dollars. Aujourd'hui, les salariés réclament 800-900. Comme vous dites si bien que les chefs d'entreprise sont pragmatiques, ils vont faire quoi? Ils vont déplacer les usines, aller les placer en Afrique pour repayer encore les 200-250 dollars de salaire moyen. Donc, à un moment donné, l'Afrique va... C'est le tour de l'Afrique. Maintenant, si les gens qui sont issus de l'Afrique, la diaspora, ne comprennent pas ça, ils vont être surpris, ils vont arriver, les terres appartiennent aux Chinois, aux Turcs, aux Libanais, aux Américains, et vous-même qui... Vous êtes là en repoussant en disant « mais c'est trop risqué, il y a de la guerre, il y a la famine, je ne vais pas y aller ». Or, c'est un tort. Il faut absolument, dès maintenant, même si vous n'avez pas envie d'investir énormément, acheter au moins des terres. Préserver les terres en disant « mais demain, quand je vais vouloir faire un business, j'ai au moins les terres ». Mais même si demain, je n'ai pas envie, j'ai acheté à 10, demain, je peux revendre à 100. Au bout de 5 ans, les terres prennent tellement de la valeur parce qu'il y a énormément de convoitises au niveau de l'Afrique.
Il faut rêver ça. Il ne reste que 2 minutes, coach, avant de se quitter. On va peut-être faire un dernier tour de table avec nos invités. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à des entrepreneurs qui vous ont écouté ce matin sur Africa Radio? On commence par vous, Boubacar Diallo.
Alors, je sais pas, je vais rebondir.
Les sceptiques, mais allez-y,
ouais, je vais rebondir. Un peu rebondir sur la fin, sur finalement les jeunes qui sont ici. Et ce que disait aussi mon collègue, c'est que l'avenir, il est vraiment en Afrique. Hein. Et pour s'en rendre compte, il faut vraiment que jeunes, moins jeunes, etc., mais les gens qui nous écoutent, comprennent bien qu'il faut un peu s'enlever tout ce passif qu'on a et cette croyance de connaître le pays d'origine. On ne le connaît jamais.
Ouais, assez, parce qu'il est en totale mutation tout le temps.
Il est dans une mutation extraordinaire. Moi, je suis guinéen, mais j'ai pas investi. J'ai pas commencé à travailler en Guinée. J'aurais pu faire ça, mais parce que j'avais ce passif de me dire ah ben non, je vais pas aller là-bas parce que c'est quand même il y a la famille, ça va être compliqué. Donc je suis allé au Togo. Et en allant au Togo, voilà, en changeant un peu des pays, j'ai vu ah ben oui, mais en fait il se passe des choses.
Ça bouge très vite.
Et pas que dans les villes, hein, aussi vraiment dans
l'arrière rural,
dans les villages. Ouais. Donc l'avenir est sur le continent, donc c'est important d'essayer de le regarder, mais avec un regard beaucoup plus neutre et de le regarder sur l'aspect vraiment sur l'aspect entreprise. Et après, l'autre élément important, c'est de se rendre compte que toutes les personnes de la diaspora, enfin on les appelle comme on veut, on a surtout une richesse très importante et de la compétence parce qu'on a deux cultures. On sait vivre et comprendre deux territoires. Et vous pouvez créer l'entreprise que vous voulez de juste du négoce à une épicerie, enfin, ou à un grand truc digital. C'est pas grave. En fait, ce qui est important, c'est qu'il y a une compétence culturelle et une richesse qui est unique. Donc, vous partez tous avec des atouts, en fait. Et ça, c'est important de le savoir.
Oui.
Bah moi, j'ai trois points. Le premier, c'est que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'avenir, il est là-bas parce qu'ils n'ont pas tous eu la chance aussi de faire nos écoles, d'avoir notre expérience qu'on a eue en Europe. Donc ça, c'est important. On a vraiment une valeur ajoutée à apporter et donc créer de la valeur. Donc les premiers gagnants, bah, c'est nous-mêmes, mais aussi c'est aussi avoir un impact. Et ça, c'est très important parce que, à mon avis, si on y va que pour l'argent, on peut pas réussir ou c'est difficile. Parce que c'est, attention, être entrepreneur partout dans le monde, c'est difficile. En Afrique, c'est le plus. Donc, il faut être convaincu aussi. Et donc, c'est mon côté militant entrepreneur qui parle. Le deuxième point, c'est qu'avec très peu de moyens, finalement, on peut lancer une boîte de conseil, une épicerie en ligne. Il y a vraiment tout à faire et pas besoin de beaucoup d'argent pour réussir. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est à tous les auditeurs, et ben, il faut télécharger Temtemoine.
Okay. Et moi, je voudrais...
Pour conclure, coach.
Pour conclure, simplement, ouais. Comment faire pour pouvoir avoir accès à PassAfrique.
PassAfrica,
c'est très important, parce que je pense qu'il y a des auditeurs qui aimeraient bénéficier de votre
expérience
aventure. Il faudra peut-être nous préciser, est-ce qu'il y a le site, comment ces jeunes-là peuvent se diriger pour pouvoir avoir...
Alors, je pense qu'il y a le site du CPA qui est l'accès principal, donc Conseil présidentiel pour l'Afrique.
Mm-hmm.
Dessus, il y a les informations nécessaires, il me semble, pour pouvoir y accéder et candidater.
Okay. lancer sur dossier. Ok, très bien. Mais écoutez.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avant de conclure, coach?
Très bien. Je suis content de voir la qualité de nos invités de ce matin. Donc, je vois que le Conseil présidentiel d'Afrique fait vraiment du bon travail et j'espère qu'ils vont étendre ça et faciliter l'accès vraiment à cette nouvelle génération qui a envie vraiment d'entreprendre à la fois ici en France comme en Afrique. C'est encourageant.
Alors, on rappelle donc que le Pass Africa, c'est d'abord une solution business. Hein. L'objectif est d'accompagner des entrepreneurs entre la France et l'Afrique afin d'accélérer leur développement. Merci messieurs, merci d'être passés.
Merci.
Africa. C'était Parlons Entreprise sur Africa Radio, l'émission qui accompagne les entrepreneurs, présentée par Phil Le Montagnard avec le coach Demuller.